Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu One Finger Death Punch, développé et publié par la compagnie Silver Dollar Games en 2015, est disponible sur les plateformes de téléchargement. Nous interrogerons les conséquences de son gameplay en apparence simpliste au regard des autres beat'em all du média tels Final Fight ou Streets of Rage.
Première partie, définition et problématique.
Il est une maxime de La Rochefoucauld, la 106e de son fameux ouvrage, que j'aime beaucoup. Je vous la délivre comme moteur de notre réflexion présente. Pour bien savoir les choses, il faut en savoir le détail. Et comme il est presque infini, nos connaissances sont toujours superficielles et imparfaites. Cette idée pourrait concerner toute entreprise scientifique, des mathématiques aux expertises biologiques. Certains y verront comme du pessimisme ou du nihilisme, comme si rien ne pouvait jamais être connu. J'y vois personnellement comme un défi, le défi de constamment repousser les limites du savoir et de la sagesse, et de constamment remettre sur le métier à tisser, pour rester sur les citations, son ouvrage que l'on croyait pourtant achevé. Dans le domaine du jeu vidéo, ce qui nous intéresse ici bien sûr, je trouve que cette réflexion est on ne peut plus idoine. Au cours de nos élucubrations, depuis les quelques années que cette émission existe, nous avons tenté de circonscrire et de définir un certain nombre de concepts pour élaborer une grammaire du jeu vidéo. L'espace, la narration, la plateforme, l'éthique. Et dans le cadre des limites fixées par notre regard et des prérequis et axiomes définis par notre approche du média, nous avons réussi, à ce qu'il nous semble, à atteindre un certain degré de détail. Il y a cependant toujours un angle mort, un point aveugle, un concept auquel nous revenons constamment, que nous avons toujours considéré comme acquis, mais que nous n'avons jamais pleinement défini. Celui du gameplay. Que n'entend-on constamment ce terme autour de nous, à chaque fois que nous lisons une revue, un test, que nous écoutons un podcast, que nous regardons une vidéo. Mais sait-on précisément à quoi cela renvoie-t-il? Une définition, prise sur Wikipédia, de nous dire, je cite, « terme caractérisant des éléments d'une expérience vidéoludique, c'est-à-dire le ressenti du joueur quand il utilise un jeu vidéo. » Éléments, expérience, ressenti. Peut-on avoir ici quelque chose de plus flou, de plus éthéré? Pour être honnête, cependant, l'absence de définition quant à cet étymon spirituel du jeu vidéo ne m'avait pas, pour l'instant, dérangé. À la façon d'un MacGuffin, il était aussi insaisissable que nécessaire, aussi pratique qu'indéfinissable. Il en va du gameplay dans le jeu vidéo comme de Dieu partout ailleurs. Partout et nulle part tout à la fois. Un jeu en particulier, cependant, me fit dire qu'il était nécessaire de s'apesantir un peu sur cette définition. One Finger Death Punch. One Finger Death Punch, OFDP, est à la fois confondant de simplicité et cruellement jouissif, sans que la chose ne soit nécessairement contradictoire. Le jeu puise toute son inspiration des nombreux films de kung-fu que nous avons pu incurgiter toute notre vie durant, de Bruce Lee à Jackie Chan en passant par Stephen Chow, et réalise intelligemment ses fantasmes d'enfant lorsque, seuls dans notre chambre, nous imaginions de ces duels épiques où des dizaines, vingtaines, centaines d'adversaires aussi belliqueux que transparents nous assaillaient qui à gauche, qui à droite, qui devant, qui derrière, et nous de les repousser d'une pichenette savamment placée dans le cou ou bien d'un coup de pied à la précision chirurgicale et meurtrière. Autour de nous, les voilà valdinguer et détruire ces décors de bois et de carton, alors que nous faisions appel à ces techniques connues ou inventées, la grue, le tigre, l'ivrogne. OFDP nous propose rien de plus que cela, à portée de main ou à portée de doigt. Dans un espace en deux dimensions, un bonhomme en bâton, ou stickman, se tient stoïque. À sa gauche et à sa droite, des adversaires arrivent au contact. Lorsqu'ils entrent dans une zone d'influence, il suffit dès lors d'appuyer, selon, sur le clic gauche ou le clic droit de la souris, ou toute autre coupe de boutons que nous aurions définis, pour l'envoyer valser. L'objectif du jeu, du moins dans le mode aventure, est de détruire un certain nombre d'opposants par niveau, sachant que les choses se compliquent substantiellement par la suite. Outre leur nombre augmentant qui oblige, de fait, à une plus grande concentration et coordination, des ennemis spéciaux vous embêteront davantage. Certains sont des boss, et vous demandent de rentrer une certaine combinaison de boutons pour les vaincre. D'autres vous lanceront des armes ou, encore, changeront de côté au dernier moment, selon certaines chorégraphies fixées, pour nous faire tourner en bourrique. Néanmoins, le cœur du jeu ne changera jamais. Un bouton pour frapper à gauche, un autre pour frapper à droite, et rien de plus. Quelque chose m'a alors frappé ici. Il est certain qu'OFDP est un jeu. Il répond ne serait-ce que parfaitement à la définition que j'avais donnée ici de la chose. Un espace, des règles, des objectifs. Et il est certain qu'il est on ne peut plus amusant. Ceux qui s'y seront essayés en conviendront. Mais peut-on réellement dire qu'il possède un gameplay? C'est-à-dire, est-ce que sa simplicité et de conception et d'exécution lui permet d'être un jeu vidéo en plein et non pas, comme les gorges chaudes aiment à le rappeler, un anti-jeu, à l'instar de ces nombreux logiciels qui peuplent les téléphones portables et les tablettes qui sont dénigrées par nombre de joueurs. Autrement dit, faut-il être complexe pour être amusant? Jusqu'où pouvons-nous aller dans la réduction et conserver néanmoins ce que l'on peut percevoir comme gameplay? En ce sens, nous poserons la problématique de cette émission comme suit. En quoi One Finger Death Punch nous permet d'avoir une définition fonctionnelle de la notion de gameplay.
Deuxième partie, invisible, partout et nulle part.
Lors de la dernière émission de l'année 2015 consacrée à VVVVVV, j'avais abordé la notion de généricité dans le jeu vidéo et j'étais arrivé à la conclusion selon laquelle cette notion se définissait, en creux, par un horizon d'attente défini structurellement, soit par opposition avec les autres genres de jeux, et en plein par un ressenti lié à notre propre expérience du média. Je ne m'étais pas étendu, à dessein, sur cette partie-ci de la définition et sur ce ressenti que nous pouvons avoir lors d'une partie, car il n'est rien de plus qu'une expression typologique, pourrait-on dire, du gameplay. À dire vrai, chaque élément défini au cours des numéros de ludographie comparée finit toujours par revenir au gameplay et à son ressenti. Cela ne peut être pour nous éternellement un point d'arrivée, mais bien tôt ou tard un point de départ. Et la résolution de cette énigme, de ce crime sans victime, et sa délimitation de composer les prolégomènes nécessaires à notre réflexion. De prime abord, il nous faut, même si cela est difficile, tant nous nous servons abondamment de cela, nous éloigner de cette notion de ressenti. Ce qui me dérange effectivement profondément ici, c'est qu'il est impossible de tracer un contour rigoureux de cette notion. Chacun a son ressenti, chacun perçoit les choses sensiblement au regard de son expérience, de son âge, de son paysage culturel propre, de ce petit monde intérieur que nous avons patiemment construit et dont nous sommes les princes. Cela ne nous empêche cependant pas de croire qu'il existe une approche positive du ressenti. Et pour faire comprendre cela, je m'en vais prendre une image culinaire, celle d'une tomate. Dans le monde, il est des personnes qui aiment les tomates crues et d'autres qui ne les aiment point. Parfois, cela évolue avec le temps. Personnellement, je les détestais petits, je les adore à présent. Or, Il paraît difficile de considérer que le goût de la tomate a changé en 10 ou 20 ans. Il y en a des plus ou moins bonnes, des plus ou moins juteuses, mais en elle-même, une tomate reste une tomate. Ce qui a dès lors changé, c'est bien mon ressenti de la tomate, ma tomalité, si je puis dire. Le gameplay, jusqu'à présent, a été défini comme ceci. Il nous faut alors à présent retrouver les molécules du goût, inaltérables et reproductibles, qu'ils donnent leur saveur aux tomates ou, ici, à un jeu vidéo. Si j'en reviens encore une fois aux définitions que je peux trouver sur Internet et, une fois encore, sur Wikipédia, l'on observe que le gameplay tente à se définir comme un ensemble d'éléments, jouabilité, difficulté, possibilité, auxquels il serait réductible. Selon notre terminologie, il serait alors un réseau de signes sans en être un pourtant, une superstructure transcendant toutes les autres. Cela ne saurait l'être cependant dans notre modèle, dans la mesure où il faudrait alors considérer que le gameplay est une autre identité du jeu vidéo en lui-même, ce qui pose un problème ontologique. Comment un ensemble pourrait-il être assimilé à l'ensemble dans lequel il serait lui-même contenu ? La solution la plus immédiate, et qui serait sans doute la meilleure, consisterait alors à faire du gameplay un ensemble intermédiaire entre les réseaux de signes vidéoludiques et le jeu lui-même. Quelle est dès lors sa nature exacte, au regard du jeu vidéo dans son intégrité, et son rôle à son égard ? Je peux vous proposer ici trois éléments formels, participant aux réponses attendues, sans que je ne puisse être ici pleinement catégorique. Ils seront amenés à être mieux définis à l'avenir, et chaque élément a ses qualités et ses défauts au regard de notre problématique. Quoi qu'il en soit, tout d'abord, je peux considérer le gameplay comme l'ensemble des réseaux de signes constitués et leur nature. Il faudrait se représenter ici la chose comme un diagramme de Kvyat, ou en étoile, chaque sommet de celle-ci étant occupé par un signe vidéoludique. Le jeu vidéo, au centre, les relie alors plus ou moins fortement, les coordonne plus ou moins totalement. Le gameplay serait équivalent à ces relations, le jeu devenant dès lors son interprétation ludique, la réalisation de ce potentiel théorique. Ensuite, je peux considérer le gameplay comme étant une partie des réseaux de signes constitués, l'autre partie restant à définir. Il serait alors une sorte d'équivalent à l'esthétique en peinture, ou au style en littérature, une sorte de surface des choses, tout ce qui peut réellement s'observer sur l'écran et par l'intermédiaire de la manette. Resterait à définir ce qui serait alors le fond des choses, ce qui est en dehors de notre problématique. Enfin, je peux considérer le gameplay comme étant uniquement constitué des signes et des réseaux de signes qui communiquent par l'intermédiaire de la notion d'interactivité, soit la maniabilité, la difficulté et la jouabilité. Le reste, l'écriture, les graphismes, les sons, qui peuvent exister et existent indépendamment du média jeu vidéo, puisque l'on peut très bien regarder une vidéo de jeu, observer un screenshot ou écouter une bande originale par exemple, étant à part du gameplay. Ces trois définitions, qui ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives, du moins jusqu'à un certain point, posent cependant différents problèmes. La première ne résout en rien notre exigence de formalité car il ne saurait exister d'échelle absolue jaugeant, ne serait-ce que la difficulté d'une séquence de jeu sur l'ensemble des joueurs. La seconde définition laisse de côté tout un pan du jeu qui, à l'instar de la matière noire en astronomie, serait partout et invisible. Dieu encore est là et nous devons nous en passer. Enfin, la troisième opère une scission, une dichotomie malheureuse dans une œuvre qui, au-delà, se comprend et doit s'accepter comme un tout. Alors, que reste-t-il de tout ceci ? De tout ceci, je fais mon Spitzer, ou mon Molinier, nom connu des étudiants de lettres de France et de Navarre, et je parlerai du gameplay comme, je l'ai évoqué à l'instant, du style en littérature, et considérerai alors surtout son stylème, ou, plutôt, son game-em, que je définirai à minima et avant d'y revenir plus longuement si après, comme étant son trait spécifique de ludicité. La somme des gamemes définit le gameplay, tout comme la somme des stylèmes définit le style d'un auteur. Et de la même façon, c'est par leur intermédiaire que se saisit son élégance et sa grandeur, comme au contraire sa faillite et son imbécilité. Nous rajoutons dès lors ici et à l'avenir une strate de complexité à notre modèle théorique. Le signe vidéoludique, élément reproductible d'un jeu, se construit en réseau, l'ensemble des réseaux formant jeu. Le gamem, quant à lui, est la considération fonctionnelle de ces deux éléments que je m'en vais définir à présent.
Troisième partie, le gamem simplex.
Si nous considérons la ludicité comme le caractère de ce qui est un jeu, et un jeu vidéo en particulier, signes, réseaux de signes, espaces, règles et objectifs, le gamem, élément du gameplay, se définirait comme l'élément interactif qui confère au jeu son identité fondamentale. Que l'on considère le jeu vidéo comme une rivière, un fleuve, qui passerait à travers de nombreuses grilles serrées et secrètes. À la toute fin ne reste qu'une pépite d'or, qui est le gamem, l'étymon spirituel, ce qui fait que le jeu est jeu. Je tournais autour de cette idée dans l'émission consacrée à VVVVVV, sans l'aborder frontalement. À présent, je peux le dire. Ce qui définit un jeu de plateforme, c'est le gamem. Il existe un bouton qui permet d'atteindre une surface plane de l'aire de jeu. J'en avais fait la démonstration pour VVVVVV. Je m'en vais réfléchir de même, plus succinctement néanmoins, pour One Finger Death Punch. Pourquoi plus succinctement? Eh bien, tout simplement parce que le jeu, déjà, est réduit à un seul et unique gamem. Un bouton pour frapper à gauche, un bouton pour frapper à droite. Et comme le jeu est un beat'em all, ce que l'on sait par l'intermédiaire de notre ressenti de jeu, je vous renvoie à l'émission consacrée à la généricité dans le média, nous en avons dès lors la définition la plus simple, la rivière est passée au travers de toutes les grilles. Le beat'em all, le gamem d'un beat'em all, c'est il existe un bouton qui permet de donner un coup qui, in fine, amène à se débarrasser d'un ennemi. Il me semble qu'il n'y a là rien de plus. Le mouvement, la barre de vie, les power-up, tout cela ne compose pas l'essentiel du genre du beat'em all. Ce sont, ne nous y trompons pas, des signes vidéoludiques mais spécifiques, cette fois-ci, à un jeu ou une série en particulier. Mais lorsque nous éliminons tous ces aspects annexes, il ne reste finalement de spécifique que ce qui appartient au genre lui-même, à la logique de classement supérieur. C'est en ce sens qu'il nous faut prendre les choses. Il nous semble que c'est là que nous pouvons réinvestir ce principe de gameplay en faisant en sorte qu'il devienne non pas un simple ressenti, mais bien une logique fonctionnelle. Cet aspect nous permet surtout de répondre à l'autre question que nous avions alors laissée en suspens. Pourquoi constamment revenir au gameplay quand nous parlons d'un jeu vidéo? Une première réponse, ad hoc, de dire « parce que c'est spécifique au jeu vidéo ». Et une seconde réponse, peut-être plus maligne, de préciser « parce que c'est spécifique au jeu vidéo et que cela fonde, structurellement, son identité au regard de tous les autres médias ». Nous renversons les rapports de causalité. Et je pense que c'est bien comme cela qu'il faut le considérer. Ce n'est pas parce que c'est un jeu vidéo qu'il y a du gameplay, mais bien parce qu'il y a du gameplay que c'est un jeu vidéo. Tout objet qui en incorporerait devient, de facto, un jeu vidéo, quel que soit son âge, son support, sa forme, sa couleur. Pour ne prendre qu'un exemple connu, en tapant Zerg Rush sur Google, les figures de la page internet s'animent en référence à la saga StarCraft et l'on peut interagir pour augmenter ses APM ou actions par minute. Il y a gameplay, il y a gamem. C'est donc un jeu vidéo. Je trouve dès lors, au regard de cette problématique, One Finger Death Punch particulièrement malin. Non seulement il nous propose, dans ce décorum si particulier des films de kung-fu, comme un résumé simpliste, dadaïste par endroit, de ce qu'est un beat'em all, mais il le fait, de plus, sans y paraître. Il prend les atours effectivement d'un jeu flash ou gratuit, et il se revendique effectivement, bien que subrepticement, à cette série antédiluvienne des Xiao Xiao. Son élégance kitsch et ses couleurs criates, son mouvement sans nuance, va à l'encontre ne serait-ce que des plus célèbres représentants du genre, Final Fight, Street of Rage ou Double Dragon, dans lesquels, rapidement, les combinaisons de touches et les combos permettaient de varier un gameplay, nous y revoilà encore, qui, ce jeu nous le rappelle, est d'une confondante monotonie. Pour faire une parenthèse, précisément, lorsqu'un genre ou une série prête le flanc à une critique constante, encore et encore, c'est peut-être parce qu'elle est génératrice de son identité première. Mais nous y reviendrons dans une future émission. Revenons à One Finger Death Punch. Justement, parce que le jeu se fait sans embâge et sans couenne, sans gras, le joueur est directement au contact de ce qui fait précisément l'expérience du genre. J'ai utilisé plus haut le terme, emprunté à Léo Spitzer, d'étymon spirituel. Ce grand auteur définissait ainsi ce qui restait d'un écrivain, ce que l'on rencontrait partout dans son œuvre après l'avoir passé dans une infinité de tamis. On peut ainsi considérer cet étymon, ici, pour le beat'em all, comme une relation horizontale, mais nous pouvons également l'envisager verticalement, en comparant tous les jeux de l'éditeur entre eux. Le tamis sera alors différent. Le gamem, toujours interactif, ne définira pas ici un genre, mais un esprit. Et l'on s'en rend rapidement compte. Ceux qui auront un peu d'expérience savent bien que l'on reconnaît aisément un jeu Nintendo, un jeu Sega, un jeu Capcom, un jeu Square, dans la foule de tous les autres. Il serait trop long et même fastidieux que d'énumérer les étymons spirituels de chaque compagnie ou de chaque série. Mais quiconque se prêterait à l'exercice y parviendrait, et c'est sans doute pour le mieux. Quelque part, la chose a déjà commencé. Et les sites et les initiatives des Hidden Palace au Did You Know Gaming, d'établir d'ores et déjà des listes paradigmatiques qui, une fois réduites à un élément matriciel, permet de définir précisément ces gamem. Comme souvent, il faut toujours une phase d'historicisation avant d'aller dans l'analyse.
Quatrième partie, de la progression et des pouvoirs acquis.
Cette approche du gameplay et des gamem comme très spécifique de ludicité nous invite à interroger ses relations avec le principe de difficulté et de progression plus largement. Car si tous les jeux peuvent se réduire à un étymon monotone et simpliste, est-ce à dire que, dans un jeu donné, nous n'effectuons jamais que les mêmes gestes? Mais alors, peut-on répliquer, d'où proviendrait cette sensation de changement, d'évolution que nous ressentons néanmoins? Le jeu vidéo ne serait-il, comme l'affirment ses détracteurs, qu'une répétition ad nauseam des mêmes éléments encore et encore? Peut-être bien, mais cela n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Revenons au beat'em all et revenons à One Finger Death Punch. Un beat'em all, dans la mesure où son gamem consiste à détruire les ennemis apparaissant séquentiellement à l'écran, ne peut faire évoluer son identité que par la fréquence d'apparition des ennemis et leur résistance. Ce que l'on appelle difficulté ne peut être un changement de gamem, mais bien sa répétition. Historiquement, c'est d'ailleurs comme ceci que les choses se sont passées. L'on sait bien que l'accélération des pieuvres de Space Invaders n'était, à l'origine, qu'un bug lié à l'affichage des créatures, le professeur travaillant plus efficacement au fur et à mesure que les sprites n'étaient plus affichés sur l'aire de jeu. Cela rendait le jeu plus difficile. Cela augmentait surtout la ludicité du processus. Un niveau délicat de Super Mario Bros. Ou d'une autre variation de cette série ne consiste souvent pas à multiplier les ennemis sur l'aire de jeu, mais vous oblige à multiplier les sauts d'une précision chirurgicale, autrement dit, à reproduire encore et encore, et de mieux en mieux, le game même de la série. Il en va de même des beat'em all, en définitive. Certes, l'on pourrait targuer qu'il y a là également du placement dans l'aire de jeu, de l'exploitation des objets de soins ou du mouvement de la garde, mais, en définitive, nous en revenons à l'essentiel, c'est-à-dire à frapper et à tuer les ennemis plus efficacement qu'auparavant. Gauche, droite, gauche. One Finger Death Punch ne propose rien de plus. Sa répétitivité est cependant au service de sa ludicité et de son gameplay. Mieux, elle se réduit à celui-ci. Ceux qui penseraient autrement seraient, en réalité, trompés par du phare et des apparences, du maquillage. Mais jadis déjà, les développeurs ne savaient-ils pas faire autrement que du color swap pour nous indiquer qu'il faudra batailler plus fortement qu'auparavant, sans pour autant que le cœur du jeu n'en soit changé? Plus rapidement, plus intensément, plus précisément, mais rien de plus. Un autre point de réflexion peut-être alors soumis à notre sagacité, la question des power-ups. One Finger Death Punch a en effet un système de pouvoir qui diffère sensiblement de ce que l'on peut rencontrer dans les représentants traditionnels de ce genre de jeu. D'ordinaire, effectivement, les beat'em all ne proposent que rarement de système d'expérience ou d'augmentation de nos caractéristiques. Seuls, peut-être, certaines armes placées à des endroits idoines permettent de faciliter les approches face à certains ennemis bien plus rapides ou résistants. Dans One Finger Death Punch, en revanche, le joueur débloque, à intervalles réguliers, des capacités lui permettant, par exemple, de contrer un coup en particulier, de ralentir le jeu, de supprimer tous les opposants de l'écran, autre chose encore. Ces power-ups ne visent pas à nous aider à finir le jeu, même si leur soutien est indéniable dans les phases avancées de l'aventure. Ils ne sont là en réalité que pour nous permettre de mieux réaliser et de mieux saisir le game-em du genre de beat'em all et, pour peu que l'on connaisse la compagnie, leur style. Les amateurs de No Look à No le reconnaîtront volontiers. J'en avais parlé jadis dans un article paru sur theplayer.com. J'avais comme la sensation, indéfinissable alors, de n'avoir jamais joué qu'au même jeu encore et encore. Cela n'avait cessé de me surprendre tant ils ne sauraient être plus différents l'un de l'autre. Dans One Finger Death Punch, on se bat contre une éternité d'ennemis identiques. Dans Lucano, on empêche un chat de voler les céréales dans notre gamelle. Dans ces deux jeux pourtant, un même game-em, la même tension vers la ludicité. Appuyer sur une touche, au bon moment, pour produire un résultat. Il faut toujours se méfier de la complexité, car elle dissimule bien plus qu'elle ne révèle. La simplicité, en revanche, et je le crois depuis longtemps, n'est quant à elle jamais décevante. Parce que One Finger Death Punch a fait ce pari, il permet de saisir précisément ce qui fait la caractéristique de ce genre de jeu. Et ceux qui le rejetteraient auraient, je pense, davantage peur d'avoir honte de leur passion que crainte d'être abruti par son parcours.
Cinquième partie, signe reproductible, game-em réductible.
Mais la simplicité nous empêche également, de proposer une analyse plus approfondie de ce guémème en particulier, dans la mesure où, dans One Finger Death Punch, il compose, comme nous l'avons expliqué, l'essentiel, ou le quasi-essentiel, de la portion ludique du jeu. Il compose également une forme de cas particulier, dans la mesure où, à cet instant, il peut se réduire à un signe vidéoludique, reproductible et faisant réseau avec d'autres, selon notre terminologie fondatrice. Cela n'est cependant pas toujours le cas, dans la mesure où le guémème, étant un trait spécifique et minimal, n'est pas reproductible mais réductible. Si ce n'est quelques alchimistes ayant accompli le grand œuvre, on ne peut dupliquer l'or obtenu après avoir tamisé la rivière. Comment peut-on alors concilier ces deux aspects ? Eh bien, encore une fois, les sciences littéraires et linguistiques de nous venir en aide. Sans pour autant considérer le guémème comme une monade, dont le signe serait l'une des faces, l'on peut considérer le guémème comme une feuille de papier, dont le verso serait indissociable du recto. Le signe vidéoludique, en ce sens, d'être, à un certain point de vue, sur cette feuille de papier, non l'essence des choses. Un aspect du jeu vidéo seulement, mais non son identité. C'est ainsi la raison pour laquelle, et je l'avais déjà évoqué par le passé, le signe est reproductible et qu'il est loin d'être définitoire. L'on peut trouver une barre de vie dans un puzzle game sans que cela ne le change en jeu de combat, comme dans Puzzle & Dragons, ou encore la possibilité de passer en vue à la première personne dans un jeu de plateforme, sans pour autant le changer en FPS, comme dans Banjo-Tooie. Ce qui définit une séquence de jeu est bien un signe, non un guémème. Ce qui définit un genre, c'est le guémème, ce trait spécifique de ludicité, non un signe que l'on pourrait retrouver, reproduit, ailleurs. Si je me permettais, si j'osais, je dirais volontiers que nous venons d'assister à une révolution d'une ampleur considérable. En disant ceci, en présentant les choses comme ceci, nous venons d'établir formellement et fonctionnellement qu'un jeu vidéo était un objet culturel et non pas un simple objet de consommation. En considérant que son essence n'était pas contenue uniquement dans sa surface, mais qu'il était une identité transcendante, une volition, un pouvoir au-delà des pixels, des polygones et des textures, un cœur de joueur pour ainsi dire, en considérant, comme nous le pressentions tous, qu'il y avait là de l'humain, comme dans tout ce que l'humain fait. Nous allons au-delà que le bout de plastique, que la lumière sur l'écran, que le retour de force du volant. Nous sommes réellement dans One Finger Death Punch, puisque c'était bien de cela dont il s'agissait, revivant nos fantasmes enfantins. Nous n'avons pas cessé de faire semblant. Nous ne sommes jamais dupes. Mais Dieu, que cela est amusant. Et tant que nous pourrons comprendre que ce qui fonde réellement, par son interactivité, sa ludicité et son gameplay, le jeu vidéo dans son ensemble comme dans sa spécificité, nous serons en mesure de l'apprécier. Mais après tout, c'est encore ça l'essentiel.
Ah, faudrait faire une pub pour Getting to Know You, mais là j'ai la flemme.
Ça peut être ça notre pub, non ?
Ouais.
Getting to Know You. Sur Radio Kawa. Deux personnes, une conversation et zéro fil rouge.
T'en as marre de voir des fautes d'orthographe et de lire des statuts bidons sur Internet ? Tu veux apprendre aux gens à enfin parler français ? J'ai l'émission qu'il te faut, ta gueule ! Ouais, c'est le titre. Tu l'écoutes, tu la partages. Ta gueule, une émission Radio Kawa.